VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a limogé son frère cadet Saleh Déby de la direction générale des douanes le week-end dernier. Une mesure qui vise à assainir les finances publiques. Le point avec notre correspondant N'Djamena André Kodmajinga.
Tout est parti de l'application de la feuille de route issue du séminaire gouvernemental tenu du 6 au 7 octobre dernier à N'Djamena sur la stratégie de mobilisation des ressources et de maîtrise des dépenses publiques selon les informations proches de l'enquête. Le gouvernement aurait demandé à l'ex-directeur général des douanes Saleh Déby de verser les recettes douanières au trésor public, mais ce dernier a opposé une fin de non-recevoir. Très en colère, le gouvernement, à travers son secrétariat général, a déposé une plainte contre lui au parquet de première instance de N'Djamena le vendredi 23 octobre pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Par un décret présidentiel, signé le même jour, l'ex-tout-puissant directeur général des douanes, frère cadet du président Idriss Déby Itno, est limogé et aussitôt mis aux arrêts par les éléments de la DGCIO, Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, et placé à garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Non seulement le gouvernement lui demande de justifier sa fortune estimée à 15 milliards de francs CFA et les recettes douanières qu'il aurait logées dans ses comptes privés, mais de réparer les préjudice subi par l'État. Réaction de quelques citoyens au sujet de ce limogeage.
Un simple douanier, on l'escorte pour aller au bureau, c'est mon fort de voir. Le ministre des douanes ne va escorter pour un douanier. C'est lui qui a ramassé beaucoup d'argent, il faut qu'on le mette en public, tout le monde le voit. Que de le cacher et faire un jugement sous coulisses, nous on ne veut pas.
Même si c'est une récupération politique, mais quand même, nous, surtout les citoyens lambda, on a vraiment apprécié cela. Donc, Déby doit faire tout pour laisser la justice librement faire son travail.
Les recettes douanières sont les premières recettes qui contribuent au budget national. Mais depuis que ces régies sont à la main de certaines personnes, le Tchad est asphyxié. Donc, son limogeage est un ouf pour le trésor tchadien.
Pour le ministre des Finances et du Budget, Garlenand Ogdengar, une page de l'histoire est tournée.
Il faudrait que la douane soit une administration au service de l'État et non une administration au service de quelques agents. Qu'on puisse jeter les nouvelles bases d'une administration douanière qui, compare le passé, est une des premières administrations financières du pays.
Si les faits reprochés à l'ancien directeur général des douanes sont avérés, il encourt un emprisonnement ferme de 1 à 10 ans avec une amende de 100 000 à 10 000 de francs CFA conformément à la loi en vigueur. Pourquoi ce sont les éléments de la DGCE qui l'ont arrêté alors que la plainte déposée contre lui au parquet est orientée à la police judiciaire? Personne ne répond à cette question. André Kodmajingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Congo-Brazzaville, d'après les résultats officiels du référendum constitutionnel de dimanche, le oui l'a emporté à 92,96% avec un taux de participation de 72,44%. Des chiffres rejetés par l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Il y soit l'adjoint Trésor Chardon Nzila Kendet, directeur de cet observatoire à Brazzaville.
Ces résultats sont tronqués, ils ne reflètent pas la réalité. Les Congolais, en grande majorité, ont boudé les urnes. Il y a eu très peu de mobilisation, que ce soit dans les grandes agglomérations, Brazzaville, le Pointe-Noire, Bélivie, et même à l'intérieur du pays.
Quelles sont les preuves que vous avez? Est-ce que vous aviez des observateurs dans tous les bureaux de vote et dans toutes les villes?
Il n'est pas évident de dire que nous avons des observateurs dans tous les bureaux de vote. C'est exagéré, mais nous avons des informations venues de partout qui nous permettent de dresser une tendance générale sur le déroulement du scrutin.
Maintenant, quelle sera la suite si la nouvelle constitution est adoptée?
Si la nouvelle constitution est adoptée, c'est ce qui est fort regrettable. La constitution va passer, mais ce qui reste à faire, c'est la bataille de la gouvernance électorale. Il faut qu'on ait un fichier électoral fiable, une commission électorale véritablement indépendante pour garantir la sécurité du scrutin de 2016.
Qu'en est-il des militants de l'opposition qui étaient assignés à résidence?
Actuellement, ils sont toujours assignés à résidence. Les droits et les libertés politiques sont bafoués. C'est tout à fait inadmissible de voir que les opposants soient assignés à résidence. Et que le procureur de la République est censé garantir les droits et les libertés des citoyens. C'est une insulte.
Trésor Chardon Zila Kendet, directeur de l'Observatoire congolais des droits de l'homme à Brazzaville. Et puis au Rwanda, les députés débattent au Parlement un projet de réforme constitutionnelle éliminant la limitation des mandats présidentiels et permettant au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. Un vote est attendu sur ce plan de réforme.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara réélu pour 5 ans dès le premier tour. C'est ce qu'a annoncé ce matin la CEI, la Commission électorale indépendante. Notre envoyé spécial Tatiana Mosso est à Abidjan. Son témoignage.
C'est une victoire sans surprise pour le candidat du RHDP Alassane Ouattara. Avec 83,72% des suffrages, le président sortant obtient donc son deuxième mandat. Très loin devant ses adversaires. Derrière lui, pas un seul des autres candidats ne dépasse les 10%. Le résultat de ce scrutin semble laisser penser qu'Ado était seul dans la course. Arrivé en deuxième position avec 9,25% des voix, Pascal Affine-Guesson du FPI, le Front populaire de l'ancien président Laurent Gbagbo. En troisième, Kwadjo Konan-Bertin avec un minimum de 3,84%. Souvenez-vous, dès lundi soir, c'est ce dernier qui avait déjà félicité Alassane Ouattara pour sa victoire. Il s'en était suivi deux autres candidats dans la journée de mardi, reconnaissant ainsi leur défaite avant même la proclamation partielle des résultats. Quant à la polémique sur le taux de participation, la CEI a finalement revu à la baisse les 60% annoncés lundi, soit 54,63% du taux de participation. C'est ce qui était proche du chiffre annoncé par la société civile. Jusqu'à présent, cette élection s'est déroulée sans incident particulier. Reste à savoir si elle permettra aux Ivoiriens de tourner définitivement la page de la crise de 2010 et d'amorcer une réelle réconciliation nationale. Tatiana Mosso, à Abidjan, pour VOA Afrique.
Au Nigeria, plus de 300 femmes et enfants retenus par le groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du pays, libérés par l'armée. C'est ce qu'annonce aujourd'hui un communiqué des forces armées nigérianes. Les militaires ont secouru un total de 338 personnes retenues en captivité par les extrémistes lors d'opérations hier dans la forêt de Sambisa, un bastion des rebelles, précise-t-on à Abuja. Et puis en Afrique du Sud, le calme est de retour dans les universités après la promesse faite vendredi par le président Jacob Zuma qu'il n'y aura pas d'augmentation des frais d'études en 2016. Beaucoup d'étudiants se félicitent de cette concession présidentielle, mais les plus radicaux continuent d'exiger la gratuité des études universitaires. L'université de Witwatersrand compte reprendre ses activités aujourd'hui. Timothée Donagma y a joint Claire Bénin-Bafou, professeur d'architecture.
On n'est pas tout à fait sûr que ça va marcher parce que le corps des étudiants est divisé. Il y a le SRC d'un côté qui souhaite arrêter les manifestations et terminer l'année et passer les examens, quitte à reprendre les manifestations ensuite, et qui dit bon, on a gagné sur nos revendications immédiates, qui n'étaient pas d'augmentation de frais d'inscription et la considération que les travailleurs en sous-traitance soient réintégrés. Et il y a l'aile plus radicale des étudiants qui dit mais on est qu'à la moitié du chemin parce qu'on a fait une victoire à court terme, mais ce qu'on voudrait c'est l'éducation gratuite dans un pays comme l'Afrique du Sud et ça on n'y est pas du tout encore et c'est le moment de pousser.
Qu'en est-il des autres universités?
Je ne suis pas sûre, je n'ai pas vérifié dans les autres universités, UG Pretoria. Il n'y a pas eu de grand mouvement jusqu'ici. Je pense que les étudiants se concertent, sont assez divisés, donc discutent beaucoup. Donc on ne sait pas trop ce qui va sortir de cette période-là, qui est une période plus difficile, parce que là, c'est vraiment la dernière limite pour faire les examens, hein, avec deux semaines de retard et l'année va s'achever. Et je pense que c'est un moment de possible division du mouvement.
Donc la promesse du président Zuma qu'il n'y aura pas d'augmentation des frais universitaires en 2016 a des résultats plutôt mitigés.
Non, tout le monde est content et ça on sait qu'il va être forcé de le tenir. Mais les réclamations des étudiants, c'est on aimerait le principe d'une éducation gratuite ou d'une éducation à frais d'inscription symbolique. Il y a eu une étude qui a été faite par un professeur d'université en disant voilà quel serait le coût de frais d'inscription minimes et c'est tout à fait supportable dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Et donc en ce moment, ce rapport ressort, enfin on commence à le faire circuler sous le coude et à dire mais pourquoi on n'en a pas débattu, pourquoi c'est pas quelque chose sur lequel on peut statuer. Et donc le débat se dirige vers ces questions à plus long terme et en fait les étudiants plus radicaux aimeraient que ce débat ait lieu maintenant.
Claire Bénin-Bafou, professeur d'architecture à l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Et pour terminer, vote quasi unanime mardi de l'Assemblée générale de l'ONU pour la levée de l'embargo américain contre Cuba. À l'exception des États-Unis et d'Israël, les 191 autres pays de l'ONU, membres de l'ONU, se sont prononcés en faveur de la résolution non contraignante demandant la fin de l'embargo imposé à Cuba depuis 1962. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.